Bonjour à tous. Ce matin, bon, je disais à Bernard tout à l'heure, ce matin, je me réveillais, je me suis dit, ah super, on va aller à l'église, je me demande bien quel sera le message d'aujourd'hui. Mais en fait, j'avais oublié que je connaissais déjà le message. Donc il se peut que le Saint-Esprit me dise autre chose, mais c'est assez drôle. Donc avant de commencer, je voudrais rendre gloire à Dieu, parce que exactement, ça fait un an aujourd'hui que nous sommes en juin. On était dans une autre ville avant, on était à Paris, et merci Bernard de me proposer de faire ce message aujourd'hui. Et merci à ma courageuse femme aussi qui va prendre soin de deux bébés pendant que je fais le message ici. C'est important de le... qu'elle soit là. Gloire à Dieu. On va prier un petit peu. Merci Seigneur, parce que oui, parce que tu es notre Dieu, tu es ce Dieu qui est avec nous, qui ne nous abandonne pas. Tu nous as voulu dès le départ, Seigneur. Et merci, Père éternel, pour ce moment de rencontre, de partage à travers nos frères et sœurs ici. Et que ce qui est dit et ce qui est partagé ici soit vraiment soit quelque chose qui vient de toi, que ce soit ton message, Seigneur, qu'il y ait plus de toi et que l'on devienne tout petit et qu'il n'y a que toi qui apparaisse aujourd'hui dans ce message et en tout temps, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Bon. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je travaille à Paris et je prends le TGV 3 fois par semaine. Je fais l'aller-retour 1h30 le matin, 1h30 le soir. Bon, l'après-midi, je voudrais bien, mais le soir, donc c'est 3 fois par semaine. Le reste du temps, c'est du télétravail. Donc, gloire à Dieu aussi pour le télétravail. Pendant ce temps de voyage d'une heure et demie, comme font la majorité de mes collègues à Paris, je me dis, je vais profiter de ce temps-là pour prendre un petit moment, une 20 minutes, 30 minutes, pour lire la Bible. Donc, pour moi, ça sortait vraiment comme un super plan. Ça, c'est un super plan. Surtout pour un papa, un parent comme moi, de deux petits bébés à la maison. C'est vraiment un privilège de pouvoir avoir ce temps-là de lecture, 20 minutes, 30 minutes, au moins 3 fois par semaine. Donc je pense que ceux qui ont déjà qui ont des petits-enfants savent très bien ce que c'est. Les bébés prennent beaucoup de temps. Et c'est une grâce aussi. Mais je fais une petite parenthèse pour les jeunes qui sont ici. C'est bien de faire des bébés. C'est vraiment bien. Et d'ailleurs, le tout premier commandement, tout premier ordre que Dieu a donné aux êtres humains, une fois qu'il nous a créés, c'était... Voilà. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez la terre. Donc, traduction, une fois que vous êtes marié, il dit carrément, allez-y, quoi. Donc, parenthèse à part, je continue mon récit. Donc, je prends le TGV, j'en profite pour lire la Bible. C'est absolument génial, sauf que dans mon plan, dans mon imagination, ce que je n'avais pas imaginé, c'est que quand tu es assis quelque part déjà et qu'il y a quelqu'un à côté de toi, qu'une personne sort sa bouteille de Coca-Cola ou n'importe quel livre, bon, bah. Tu regardes forcément ce que ton voisin fait. Tu jettes un petit coup d'œil. C'est très naturel, au fait. Et là, au fur et à mesure que je fais ça, j'ai commencé à percevoir différentes réactions, du plus positif au plus négatif. Une fois, j'ai vu quelqu'un directement, je ne sais pas si c'était lié ou pas, se lever, s'en aller dès que j'avais sorti ma Bible. J'ai aussi eu quelqu'un qui soupirait. Plusieurs fois, dès que j'ai sorti la Bible, alors qu'avant il n'y avait pas du tout de soupir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah oui, il y a aussi les gens qui te sourient bien au départ quand tu t'installes, tu t'assois, etc. Et même pas 15 minutes avant l'arrivée, cette personne est tellement pressée de partir. Je prie pour ces gens à chaque fois. J'espère que tout va bien. Il y a aussi ceux qui, au contraire, te sourient. Quand tu arrives, mais quand tu pars, bon, bah, qui te font encore un plus grand sourire, comme pour dire, ah, toi, t'es un frère, toi, t'es un frère. Enfin, peut-être, j'espère. Ça, c'était une illustration un petit peu de le message qui sera aujourd'hui. Je pense que, au fait, Je peux même m'arrêter là, parce que ça dit tout. Aujourd'hui, on va parler du parabole du semeur. Et c'est ce qui se passe quand on sème. Quand on sème quelque chose que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est aussi souvent comme ça que les gens réagissent. Il y a une adversité quand on partage la bonne nouvelle. Mais je devais parler de cette parabole du semeur parce que c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ m'y a conduit. En fait, d'abord à la maison, on arrive quand même bien, de se faire une série tous les 15 jours de découverte d'une nouvelle parabole. À la fin de l'année, on était resté un mois sur le parabole du semeur, donc on avait terminé l'année sur le parabole du semeur. Et ensuite, premier lundi de l'année, je me dis « Ah tiens, je suis en télétravail, je vais écouter un message en même temps, en ligne, là, d'une église en ligne. » Je me dis « Ça va faire du bien. » Ça, je me lave. Et après, boum, parabole du semeur encore. Je fais « Ah ok, Seigneur, tu es en train de dire quelque chose ?» Et on a visité une église amie ici, vers Angers, pour leur souhaiter bonne année. Et qu'est-ce que le pasteur dit ? Parabole du semeur. Donc après, Bernard me dit, bon, bah, peut-être début mars, tu vas faire quelque chose. Je dis, bon, bah, je crois que le message est choisi. Et que le Seigneur veut que j'apprenne moi-même à semer. Et que je partage ce message autour du fait que, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, il veut que nous soyons acteurs de ce qu'on est en train de préparer. Ok, alors comme le Seigneur me met aussi à cœur d'apprendre à m'adapter aux évolutions technologiques, une fois que j'ai compris quel serait le message, je suis allé voir ChatGPT et je lui ai dit « Comporte-toi comme un pasteur qui a 10 ans d'expérience et montre-moi une prédication, fais une prédication sur le parabole du semeur. » J'ai regardé, bon, c'est intéressant. Mais je lui ai dit, bon, ok, c'est qui ce semeur en fait ? Donc je fais test, hein, je teste ChatGPT en même temps. Il dit, c'est Jésus, mais ça peut être aussi toute personne qui est appelée à partager la bonne nouvelle par un moyen ou par un autre. Autrement dit, dès que tu as un projet qui vient de Dieu, que Dieu te dit de faire ci, ça, 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 en son nom, bah, tu es un semeur, tu es ce semeur-là, comme Jésus. Mais peut-être que tu ne sais pas ce que Dieu t'appelle à semer, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Mais je te dis, sois vraiment certain de quelque chose. Dieu ne te laisse pas vivre là, en ce moment-là, en mars 2025, sans avoir quelque chose pour toi. Sans avoir un programme pour toi, il a un programme, il a un appel, il te prépare quelque chose, il te demande de faire quelque chose. On va lire un petit passage dans un roi qui illustre parfaitement ce qui doit être fait quand on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Quand on ne sait pas ce que Dieu nous appelle, quand ce n'est pas clair pour nous, quand on vient de terminer une saison aussi. Et tout simplement quand on a envie de savoir à quoi Dieu nous appelle. Donc on va le lire. Donc le contexte de cet extrait, c'est Élie venait de faire une grosse performance la veille. Il a montré que Dieu est vraiment Dieu. Je vous laisse lire le contexte avant, je pense qu'il est quand même assez connu. Et donc il y a eu des adorateurs de Baal, des prêtres de Baal qui ont été exécutés parce qu'ils n'ont pas pu prouver que Baal est un vrai Dieu. Et donc là, il y a la reine Jézabel qui n'était pas contente de ça et elle voulait poursuivre et tuer Élie. Donc Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis, il s'enfonça dans le désert après avoir marché toute une journée. Il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » D'abord, dans cet extrait-là, ça commence par « Élie prit peur », donc il a eu peur. Ou, dans notre cas, nous, « Seigneur, j'ai peur. Tu m'envoies quelque chose » ou « Seigneur, j'ai peur, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, demain, cette année, cette saison. Et dans la plupart des cas, il y en a qui disent « C'en est trop, Éternel, c'en est trop. Je ne sais plus quoi faire. » Élie dit « Prends-moi la vie carrément. » En tout cas, là, il se soumet au Seigneur. « Prends-moi la vie parce que je suis totalement perdu. » Alors, Élie se coucha et s'endorma sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Ça, c'est super bien. Tu es désespéré, tu ne sais pas quoi faire, tu viens voir le Seigneur. Et le Seigneur te dit « Mange, lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il est vraiment gâté, là. Parce qu'on parle d'une situation où Élie était désespéré, parti voir le Seigneur, et disait « Ah Seigneur, c'est trop, c'est trop, c'est trop. » Et là, le Seigneur fait quoi ? Il pourvoit. Il prépare, il lui donne des gâteaux, une cruche pleine d'eau. C'est assez symbolique de ce qui peut arriver quand on se rapproche du Seigneur. Donc il mangea et buit, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement, le chemin serait trop long pour toi. » Il y a déjà une notion de préparation qui arrive là. Il le laisse se reposer et le Seigneur pourvoit encore une fois de la nourriture et lui dit « Mange, lève-toi, mange, parce qu'il y a un chemin que tu vas faire là, qui va être très 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 long. » Donc on continue. Donc il se leva, mangea et buit, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. On voit ici que Élie se lève pour aller encore chercher Dieu dans cette montagne. Donc il entra dans la grotte où il passa la nuit. J'ai une note ici en bas de la Bible que cette grotte, c'est peut-être la caverne où Dieu s'était révélé à Moïse. Donc volontairement, ce qu'on peut lire ici, c'est qu'il y a le Seigneur, il y a Élie qui va aller chercher Dieu. Il va aller chercher Dieu à chaque fois. Dieu l'a nourri. Et là, il va encore aller chercher Dieu. Il va dans cette montagne Horeb et il entre dans la grotte où probablement c'est la caverne où Dieu s'était révélé à Moïse. Et là, quelque chose de magnifique se passe. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Que viens-tu faire ici, Élie ? J'adore cette question. Je me lève le matin, hein. Il se peut que le Seigneur nous pose cette question. Que viens-tu faire ici, Michael ? Élie répond, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » En résumé, traduction, Élie dit, « C'est la galère, c'est dur, je suis désespéré. » Alors qu'est-ce que l'Éternel dit ? « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Ça montre déjà un début d'indication de commandement de la part de Dieu. Il commence à donner les premières prescriptions. Il a dit, ok, bon, sors et tiens-toi sur la montagne. Ensuite, Élie est passé sur cette montagne-là. Et voici que l'Éternel passa devant lui, donc devant l'Éternel. Soufflait un vent si violent qu'il fondait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y a eu un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Non. Après cela, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Il aurait pu être là-dedans. Mais non. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement ou un murmure doux et léger. Et là, c'était l'Éternel qui était là. Avec un murmure doux et léger, pour nous dire que l'Éternel est maître de toutes ces choses-là, l'ouragan, le tremblement de terre, le feu. Il aurait pu dire « Waouh, regarde ça !» Mais il vient nous voir avec un murmure doux et léger pour dire « Mon enfant, je t'aime, je comprends ce que tu vis, je t'aime. Et je viens aller te demander de faire des choses. » Mais ça, on va venir après. Donc, dès qu'Élie l'entendit, se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. Donc l'Éternel, encore une fois, qui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, il a dit la même chose que tout à l'heure, « Seigneur, c'est la galère, aide-moi. » Et là, l'Éternel va lui donner des instructions plus détaillées et une révélation plus globale. Donc l'Éternel lui dit « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël comme roi de Syrie, puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méola, comme prophète pour te remplacer. » C'est des instructions vraiment complètes, ça. Il le dit des choses en plus. Tout homme qui échappera à l'épée de Azaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Là, Dieu lui dit, voilà ce qui va se passer. Voilà le contexte. Et Dieu nous dit exactement ce qu'on doit savoir. La preuve, là, il dit encore, toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Élie pensait qu'il était tout seul. Et là, Dieu lui dit, non, il y en a 7000 autres qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal. Et là, Dieu lui a dit quelque chose qu'il avait besoin de savoir. Donc peut-être que Dieu te demande exactement aujourd'hui aussi, qu'est-ce que tu fais ici à Angers en mars 2025 ? Peut-être qu'il y en a qui répondraient, bon, bah, je suis en train d'économiser pour avoir une BMW. Pourquoi pas ? Ça peut être aussi, ouais, j'économise pour avoir une BMW, pour pouvoir évangéliser à Saumur, à Trélazé, etc. Tant que ça contribue au royaume. Et Dieu va nous donner des instructions quand on se rapproche de lui, comme dans l'exemple qu'on vient de voir tout à l'heure. Quand on ne sait vraiment, vraiment, vraiment pas. Ou quand on a envie d'avoir des précision supplémentaire, Dieu va nous répondre et il nous parle. Donc pour les non-missionnaires, donc je parle ici d'une personne, les missionnaires aussi sont des personnes lambda, pour les non-missionnaires qui sont placés dans les entreprises ou dans la vie quotidienne, ça nous parle aussi, hein, c'est une précision importante. Peut-être que Dieu peut simplement vous donner comme objectif de faire être un petit peu plus souriant pour 2025 ou jusqu'à l'été. Donc quand l'été va arriver, vous pouvez arrêter de sourire si vous voulez. Ça peut être ça, ou peut-être que le Seigneur te donne simplement aussi comme objectif d'être un petit peu plus pédagogue, comme moi. Bon, j'ai très peu de patience. Peut-être que voilà, simplement le Seigneur te donne pour objectif aussi d'accomplir une certaine tâche dans ce que tu fais au travail ou dans ce que tu fais comme activité associative. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Tu n'es pas là en train de vivre en mars 2025 sans que le Seigneur ne te demande quelque chose. Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué particulièrement dans ce que Bernard avait partagé la semaine dernière. C'est cet extrait-là, dans l'Acte des Apôtres, où il est dit, de deux choses l'une, ou bien leur projet et leur œuvre viennent des hommes, et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra, ou bien ce projet vient de Dieu, et alors, vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Tout ça pour bien préciser que c'est important d'aller poser cette question, de faire cette discussion avec Dieu, faire ce travail de labour. Préparer le terrain avant de semer. Seigneur, ok, montre-moi. En conclusion sur cette première partie, avant de semer, rapproche-toi de Dieu pour qu'il t'indique ce que tu dois semer. Et maintenant, une fois que tout ce travail-là est fait, On se prépare sur la deuxième partie. C'est on va aller semer. Et là, c'est le plus drôle qui va se passer. Donc, on va commencer à lire ce parabole du semeur. Donc, je me suis concentré particulièrement dans le Matthieu 13, mais il est dans d'autres livres aussi. Versets 1 à 3. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison où il se trouvait et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla, si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Ici assis, la foule se tenait sur le rivage, il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, « Un semeur sortit pour semer. » Et là, full stop. Qu'est-ce qu'il a fait le semeur ? Ouais, il est sorti pour semer. Ça signifie, pour semer, qu'est-ce qu'on doit faire, nous ? Oui, sortir de chez nous, de la zone confort. Sortir aussi de l'église, de ce jacuzzi spirituel où on est. C'est pas mon expression, hein, je l'ai pris quelque part. Mais des choses que nous avons reçues ici et sortir pour aller partager la bonne nouvelle. Donc ça ne dit pas un semeur a passé 3 heures sur Instagram. Pour semer. Ça ne dit pas ça. Ou un semeur a passé 3 heures de resto par jour pour semer. Bon, tu peux le faire si tu parles à des gens dans ce resto-là, pourquoi pas. Bon, si ton métier est développeur web, bien sûr, bon, bah. Les développeurs web aujourd'hui peuvent faire 100% de télétravail, donc ils sont forcément chez soi. Donc ils restent à la maison. Mais là, peut-être que le Seigneur va t'inviter à semer par ta production, ton attitude au quotidien, tes actions avec tes collègues qui t'invitent à sortir de chez toi, parce que tu peux avoir très facilement un collègue ou un ami à la fac qui t'énerve, il va dire « toi !» Et là, te dit, le Seigneur te dit, sors de chez toi pour semer. Certains peuvent aussi se dire, bon, bah, en fait, j'ai la paix, j'ai Jésus dans mon bateau, je suis déjà sauvé. À quoi bon ? Je suis tranquille. Bien sûr que tu es sauvé, mais quand on a invité Jésus dans notre cœur, on ne peut pas, en fait, rester dans cette zone de confort-là. Et quand on a Jésus dans notre cœur, on comprend parfaitement qu'il ne veut laisser tomber personne. Et quand il nous donne une attribution, quelque chose à faire, on y va assez naturellement. Vous ne connaissez peut-être pas David Nolan, mais maintenant, c'est lui qui s'occupe d'une application qui s'appelle Top Chrétien, qui a fait beaucoup de choses dans ma vie, notamment quand j'étais un chrétien du dimanche. Donc chrétien uniquement le dimanche. Ce responsable de cette application qui s'appelle Top Chrétien et qui continue de bénir plein de gens aujourd'hui, quand il a compris la bonne nouvelle, le message, la bonne nouvelle et ce que Dieu veut faire, pendant 3 jours, il est parti s'isoler chez lui, il n'a rien fait, il a réfléchi longtemps là, il a médité, et qu'est-ce qu'il a dit à la fin ? Seigneur, utilise-moi ou tue-moi. Imaginez-vous à votre place. J'ai essayé de faire cette phrase, appliquer cette phrase sur moi-même. Mais en fait, ça vous porte sur quelque chose de vraiment important. On est ici pour semer la bonne nouvelle. Donc, le deuxième point que j'aimerais partager aujourd'hui, il était très clair, c'est sors de chez toi. Pour semer, on va continuer au verset suivant. Alors qu'il répandait sa semence, donc comme il semait, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Alors cette première partie, quand on lit le verset un peu plus loin, le verset 19, il y a un corrigé, hein, c'est le seul parabole où il y a C'est le rare, un des rares paraboles où il y a un corrigé. Donc au verset 19, il est dit que ces oiseaux, en fait, c'est le diable qui va aller piquer tout ce qui aura été semé. Donc des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu sèmes, une partie de tes grains vont tomber sur le chemin. Et ça, c'est les gens qui ne vont pas recevoir ton message, qui vont mal prendre ton message, qui vont mal prendre ce que tu dis ou ce que tu fais, parce qu'ils ne comprennent pas ton message. Et il y a les oiseaux, il y a toujours des oiseaux, souvenez-vous de ça, qui vont venir pour manger ces grains que vous avez semés. C'est comme ça. Qu'est-ce que le parabole dit? Continue. Continue de semer. Donc, d'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté, haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. Ça ressemble à quand tu as trouvé, tu es tombé nez à nez face à une personne qui te dit « Ah, ouais, il a l'air bien, il a bien reçu le message, etc. » Et tout d'un coup, il disparaît. Ça aussi, ça existe. Dans ce que vous allez semer, il va y avoir des gens comme ça qui vont disparaître. Alors, cette parabole ne dit pas, quand il y a des gens comme ça là qui ne répondent plus au téléphone, vous pensez qu'il allait vraiment que cette personne n'allait pas rester, le parabole ne dit pas, va aller chercher cette personne et... Allez, souris avec moi parce que le Seigneur m'a donné comme objectif de donner plus de sourires. Non. La parabole dit, continue de semer. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. Ça aussi, c'est un cas de figure qu'on peut voir dans notre vie quotidienne, dans notre service quotidien au Seigneur. Des grains qui tombent parmi les ronces, c'est-à-dire les gens qui sont peut-être trop occupés à réparer leurs fenêtres. Peut-être un petit peu trop occupés à voir si les pneus du BMW n'ont pas de problème. La Bible dit, continue de semer. D'ailleurs, il y a un petit aparté par rapport à ça. Souvent, quand on tombe dans des situations comme ça où c'est difficile, et ça peut vraiment être difficile, là je dis des choses qui sont assez drôles et ça peut être rigolo, mais quand on le vit dans le quotidien, c'est vraiment difficile. Et ça peut vraiment nous désespérer encore une fois. Souvent on dit, oublie ces gens-là et passe à autre chose. Mais au fait, mentalement, quand on essaye d'oublier, ça revient. Qu'est-ce que j'ai entendu cette semaine? Une phrase, quelque chose qu'on peut faire à la place et qui colle exactement à ce que dit cette parabole, c'est laissez-les. Ne pas oublier-les, mais laissez-les là. Continuez de semer pour arriver sur la bonne terre. Donc le troisième point qu'on peut noter aujourd'hui, c'est beaucoup de choses difficiles vont vraiment se passer. Continue simplement de semer. Ne vous prenez pas la tête à essayer de vous battre contre les corbeaux, les oiseaux, ni face à ceux qui n'ont pas suffisamment de temps. Là, devant mes yeux, je vois un extrait dans Apocalypse, chapitre 9, verset 20, où... Il y a eu les 6 premières trompettes. Et donc, il y a eu toute une panoplie de malheurs qui annoncent que Jésus revient. Mais vraiment, donc les trompettes ont sonné. Et il y a eu des gens qui ont souffert énormément. Et Dieu fait ça pour que ces gens se repentent. Mais après cette 6e trompette, il y a des gens, ceux qui ont survécu encore, qu'est-ce qu'ils ont fait et qui n'ont pas été tués, il dit, au verset 20, hein, chapitre 9, les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Pour dire que des gens comme ça, même jusqu'à la fin des temps, il y aura des oiseaux. Ça, c'est pas la peine de se casser la tête là-dessus. Et au fait, quand on sème aussi, avant même que les bons résultats n'arrivent, parce que vous aurez deviné le quatrième point, ça va arriver tout à l'heure, ça va être la bonne terre. Il y a un état d'esprit, il y a quelque chose qui vraiment fait la différence quand on va semer face à cette adversité-là. C'est vraiment, je vous le montre, faire ça et de dire, Seigneur, je te dispose mon cœur, je te donne mon cœur. Je me rends complètement à toi. Et donne-moi le courage de semer simplement dans cette adversité, dans ces difficultés-là, de rester simple, être un petit peu plus comme toi, Jésus, qui a semé et qui a enduré tellement de choses face aux pharisiens, aux gens qui ne te croyaient pas. Et tu es parti à la croix. Donne-moi ce courage. Voilà. C'est un état d'esprit que nous, semeurs, Dieu nous invite à voir. Et c'est ce qui est compris dans ce « continue simplement de semer » en étant avec Jésus. Alors maintenant, d'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un grain. Waouh! Enfin! Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Je vais vous partager un certain nombre de choses qui sont dites et qui ne sont pas dites dans ce parabole. Donc, qu'est-ce qui n'est pas dit? Il n'est pas dit combien de fois on va rencontrer des oiseaux, combien de fois on va tomber sur un sol rocailleux. Il n'est pas dit combien de fois on va tomber sur une terre où il y a des ronces. Il n'est pas dit. Peut-être qu'au bout de la 30e fois qu'on sème ou la 42e fois qu'on sème, on peut être découragé, et je peux vraiment être découragé moi aussi. Je le vis comme moi. Donc il n'est pas dit combien de fois on va vivre ça, mais il dit continue. Il n'est pas dit non plus que tu es responsable des corbeaux, ni des sols rocailleux, ni des ronces. Non, il n'est pas dit que c'est toi qui es responsable de ces choses-là. Et il n'est pas dit non plus que si la graine que tu sèmes sur ton mari ou ta femme ne pousse pas, que tu dois continuer de semer en changeant de mari ou de femme. Et il n'est pas dit que c'est notre rôle de transformer la graine pour qu'elle donne du fruit. Ce n'est pas notre rôle. Quand cette graine-là tombe sur la bonne terre, c'est Jésus qui le transforme, qui fait en sorte que cette graine produise 160 ou 30 pour 1. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, laisse toute la gloire au Seigneur. C'est lui qui porte tes fardeaux, les oiseaux, le sol rocailleux, les ronces. Laisse-les au Seigneur. Laisse. C'est lui qui les porte. C'est lui qui opère les miracles. Ce n'est pas nous. C'est lui. Il faut lui laisser faire le miracle. Ça part. Laisse-lui toute la gloire. Parce que de toute façon, c'est lui qui va être glorifié. C'est son nom qui va être glorifié. Dis Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Il y a autre chose aussi qui est dit là-dedans. C'est que il est avec toi. Parce qu'il y a cette notion de partenariat où toi, tu sèmes. Et il te dit, laisse les corbeaux, je vais m'en occuper. Toi, tu sèmes. Et après, il transforme ta graine en fruit. Et en fait, il est là. Il est là, il bosse avec toi. Il est avec toi quand tu sèmes, même dans le feu. On l'avait chanté tout à l'heure. Donc, même dans le feu, sois fort. Il est là avec toi. À travers les vagues de l'océan, face aux oiseaux, j'en parle tout le temps des oiseaux, face à ceux qui ne restent pas quand vous faites un projet, face à ceux qui sont trop occupés, ou même tout simplement face à ton désespoir, il est là avec toi. Et surtout, il s'occupe de transformer la graine en fruit. Il nous dit, sème, 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 il est fidèle. Et il est dit, donc écoute bien parce qu'il est dit, contribue en semant les graines. Voilà ta responsabilité. Semer, partager la bonne nouvelle du royaume. Semer, semer, semer. Parce qu'en fait, on ne pourra plus semer quand on sera au ciel. Il n'y a qu'ici que on somme pour la bonne nouvelle. Ici, c'est peut-être ici en mars 2025 qu'on te demande, fais un gros sourire jusqu'à l'été. Je vais vous partager quelque chose et là, ouais, je vais demander à l'équipe de louange de revenir ici. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu l'histoire d'une grand-mère. Elle était la seule à connaître Jésus et donc elle a continué tout au long de sa vie à prier pour ses enfants et ses petits-enfants. Mais pendant qu'elle était là sur terre, ses enfants et ses petits-enfants n'ont jamais compris qui est Jésus. Et elle était morte. Elle était décédée. Mais qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'elle a été décédée? Petit à petit, ses enfants et ses petits-enfants sont tous venus au Seigneur. Et donc, cette grand-mère-là a semé par obéissance. Sans voir les fruits, peut-être qu'on ne verra pas les fruits. Notre rôle, au fait, c'est de semer et laisser toute la gloire à Dieu. Dans Hébreux 11, il est dit, il est donné plein d'exemples de gens qui ont semé, tout simplement, avec foi. Au verset 8, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il est parti, il a semé. Au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, simplement vus de loin. Ils ne les ont pas vécus. Et ça peut arriver aussi. Que ce fruit apparaisse après notre passage, qu'on ne voit pas les fruits. Notre rôle et notre responsabilité, c'est de semer. Donc le quatrième point, c'est vraiment ça. Sème avec Jésus. Écoute le bien et dis Alléluia.